Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
En Iran, le peuple est dans la rue, demandant au prix de la vie de certains plus de justice et une plus grande liberté de conscience dans ce pays qui est une théocratie en Europe. La Pologne est dans le viseur de l'Union Européenne qui la menace d'une procédure appelée rien moins que l'arme nucléaire. En cause, une réforme de la justice qui violerait le principe de la séparation des pouvoirs. En France, Emmanuel Macron fait une rentrée à succès avec cependant deux dossiers chauds, deux bémols possibles. Les états généraux de l'alimentation que Nicolas Hulot a séché et une future loi asile-immigration annoncée comme sécuritaire. Bref, de quoi discuter. Cette émission, le grand débat de Vivante Église, émission, l'une de nos émissions mensuelles, le premier vendredi de chaque mois, avec aujourd'hui autour du plateau, il ne saut que deux, Daniel Cabanis, pour rappel, professeur émérite d'histoire du droit à l'université Toulouse 1 Capitole. Bonjour Daniel.
Bonjour Emmanuel.
Bonne année à vous, approchez-vous bien du micro, ça fera partie des bonnes résolutions. Et Bernard Ribal, président des Semaines Sociales de Toulouse et conseiller spécial du président de la CFTC, bonjour.
Bonjour.
Même vœu. Quels sont vos vœux pour la radio ? Avez-vous des vœux, Daniel, pour la radio ?
Oui, j'aurais le vœu qu'elle continue à s'ouvrir à une certaine diversité d'opinions, parce que je crois que c'est ça qui peut la faire vivre. Si elle est trop unilatérale, elle ne s'adresse qu'à des gens qui sont déjà d'accord. Et justement, il faut s'adresser à des gens qui ne sont pas d'accord.
Qui ne sont pas d'accord avec vous ou qui ne sont pas d'accord ?
Avec ceux que vous faites intervenir, ou même qui ont une position différente de celle de la radio, mais qu'on leur donne envie d'écouter. Après, ils se laisseront convaincre ou non, c'est une autre question, mais plus le dialogue est large, plus on progresse.
Bernard Ribal, vos voeux pour la radio ?
C'est les mêmes que Daniel, donc je ne répète pas. Mais j'ajouterai que, mais ça branchera sur l'Iran, que je souhaite que la radio et les radios puissent rester libres et indépendantes, à la différence de celle d'Iran en ce moment, quoi.
Alors, on va commencer justement par l'Iran, où depuis donc la fin décembre, il y a de grandes manifestations, plusieurs dizaines de milliers de manifestants, un petit peu aux quatre coins du pays, qui manifestent au cri de, entre autres, « Abat la dictateur, mort à Rouhani ». Rouhani qui est rien moins que le chef du gouvernement iranien. Donc, manifestations importantes, je le disais, essentiellement des classes populaires, on dit des ouvriers, des enseignants, des anciens combattants, voire des personnes âgées. Qui ont fait déjà quelques morts. Je recherche le chiffre des morts, bref. 21 morts, pardon. Plus de 450 arrestations. On appelle ça la révolution des œufs parce que tout serait parti du mécontentement de la population à l'annonce d'un certain nombre de mesures économiques, particulièrement de la hausse du prix de l'essence et des œufs. Alors certains parlent de révolution, d'autres parlent de pré-révolution. Il y a une image qui a beaucoup circulé, c'est où on voit une jeune iranienne qui est debout, je crois, sur un plot ou équivalent, et les cheveux, on va dire, libres, et avec son foulard à la main. Voilà pour cette courte présentation que je compléterai. Daniel Cabanis, puisque vous êtes aussi chroniqueuse géopolitique de la radio, à vous l'honneur. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces images et les articles que vous avez pu parcourir ?
Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est que ça n'est pas la première fois qu'il y a de la contestation du régime depuis l'avènement de la République islamique. À chaque fois, le pouvoir l'a emporté, a réussi à faire taire ses adversaires. Ce qui est, je crois, nouveau cette fois-ci, c'est que les manifestants, comme vous l'avez dit, les classes populaires, pour l'essentiel, sont des gens qui jusque-là étaient complètement instrumentalisés par le pouvoir et qui justement étaient le soutien qu'on arrivait à réunir sans aucune difficulté pour les grandes contre-manifs. Et cette fois-ci, ce sont eux qui contestent parce qu'ils en ont assez de souffrir. Ils ne supportent plus la corruption parce que si le niveau de vie d'une part importante des Iraniens reste extrêmement médiocre, il y a une nomenclatura qui, elle, se goberge allègrement et qu'on ne peut pas ignorer, et de surcroît en totale contradiction avec le discours religieux qui est officiellement tenu.
Alors là, justement, dites un mot, parce que c'est, comment dire, cette nomenclatura, c'est en partie donc les gardiens de la révolution.
Les gardiens de la révolution,
qui
oui.
sont donc les élites au pouvoir.
Oui.
Rappelez peut-être pour quelques mots de présentation de l'Iran, pour ceux qui n'en sont pas familiers.
C'est-à-dire que le gouvernement est double. Il y a un gouvernement civil, officiellement élu démocratiquement, Donc, officiellement, vous comprenez que c'est terriblement orienté. Et puis, à côté de ce gouvernement, il y a les gardiens de la révolution qui sont des ayatollahs et qui exercent un pouvoir religieux extrêmement strict. Ce qui fait que lorsque le pouvoir civil entend éventuellement faire bouger un tout petit peu les cartes, il est à peu près sûr de se faire taper sur les doigts par le pouvoir religieux qui a des prérogatives personnelles à défendre. C'est un fromage, donc on ne le lâche pas comme ça.
Donc c'est une théocratie, à peu près 80 millions d'habitants, et donc le guide suprême de la révolution islamique, en l'occurrence, c'est donc l'ayatollah Khamenei, on dit, c'est ça?
Oui.
Bernard Ibal, l'Iran, qu'est-ce que ces manifestations et ce qu'on en voit suscitent chez vous comme commentaires?
Bon, en plus de ce qui vient d'être dit, j'ajouterai, parce que ça me semble important, le rôle d'Internet, qui d'ailleurs se trouve maintenant coupé en Iran. C'est une révolution, entre guillemets, sans leader, parce qu'elle se fait sur les réseaux sociaux. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça. On a déjà vu ça en Tunisie, dans ce qu'on appelait la révolution du printemps, qui n'a pas duré longtemps d'ailleurs. Mmh. Même en Europe, Internet permet des mobilisations sans structure politique, sans secrétaire général, sans président, sans trésorier. Et c'est un fait nouveau dans le monde, pas simplement en Iran. Et l'autre marque plus iranienne, c'est le rôle indirect du Hezbollah. Le Hezbollah, c'est au Liban. Et ils sont d'obédience chiite, c'est-à-dire la même obédience que l'Iran, qui a pour adversaire l'Arabie saoudite, qui est d'obédience sunnite. Et le Hezbollah coûte très cher à l'Iran. Et ceux qui sont dans la foule de la révolution citent souvent le Hezbollah comme étant presque l'ennemi, parce qu'ils pompent tout l'argent de l'Iran, d'après eux, d'après ceux qui sont dans la rue, mais je crois qu'ils n'ont pas tout à fait tort, où il y a de gros investissements iraniens dans le sud du Liban, et l'appui du Hezbollah par l'Iran coûte très cher à la population iranienne. Ce qui montre qu'en fait, ce qui se passe en Iran relève aussi de la politique étrangère, parce que l'Arabie saoudite est très contente que des Iraniens puissent contester l'aide de l'Iran au Hezbollah libanais. On a vu déjà le Premier ministre libanais se promener à travers le Moyen-Orient, puis la France, puis retour au Liban, pour les mêmes raisons.
Voilà, donc le guide suprême de la révolution iranienne, Ali Khamenei, qui justement a dit que cette contestation était fomentée par les ennemis de l'Iran. Ils se sont unis en utilisant leurs moyens, leur argent, leurs armes et leurs services de sécurité pour créer des problèmes au régime islamique. Est-ce que vous pouvez éclairer un petit peu plus le jeu des puissances étrangères dans cette crise? Donald Trump, lui, par des tweets, puisque c'est comme ça qu'il fait de la diplomatie, mais c'est pas à moi de dire ça, donc je retire ce que je viens de dire, en tout cas envoyé un tweet intitulé « Le temps du changement est venu, le grand peuple iranien est réprimé depuis des années, et la France, comme d'autres puissances, ont été plus pondérées, ont dit leurs préoccupations face au nombre de victimes liées aux manifestations, et a appelé Téhéran à la retenue et à l'apaisement. » Daniel Cabanis, l'échiquier sur place, et qu'est-ce qui se joue derrière?
Ce qui se joue à terme, c'est la survie du régime islamique. Parce que si on entend les exilés, il y en a beaucoup, certains qui suivent très très près ce qui se passe en Iran, beaucoup ont le sentiment que cette dernière couche de la population qui manifeste, c'est en même temps le dernier soutien jusque-là absolu du régime qui est en train de s'effriter. Même s'ils ont réussi à remobiliser pour faire quelques manifestations tout en noir dans les grandes villes, ils y sont arrivés, mais ça n'est certainement plus aussi unanime qu'auparavant. Et puis, il est intéressant de voir que le guide suprême, comme le président de la République islamique, brandissent le Satan américain, ce qui a longtemps marché. Et marchait très très bien, mais qui ne marche plus tellement maintenant. Parce que
marchait plus peut-être déjà chez les élites.
Oui, chez les élites, il y a déjà un moment que c'était...
La différence, c'est que ça marche plus.
Ça marche plus, on n'a pas vu de drapeau américain brûlé, même si Trump est le champion à tous azimuts dans les sottises à ne pas dire et qu'il dit, et parfois à faire, on n'a pas brûlé son effigie quand même. Donc c'est... C'est symbolique, bien entendu, mais je pense qu'au-delà du symbole, ça veut dire qu'il y a une réflexion de fond qui est conduite. Et si cette réflexion de fond touche une part de plus en plus importante de la population, cela pourrait à terme sonner le glas du régime, surtout si l'armée se désolidarise. Or, il est possible que l'armée se désolidarise.
Bernard Ibal, vous avez un autre commentaire ou est-ce qu'on passe à la Pologne? Est-ce que c'est un régime qui, de fait, est extrêmement fragilisé? Est-ce que la société civile serait prête, en fait, à...
Ils ont une astuce qui existe un peu, d'ailleurs, dans tous les gouvernements du monde, mais ils ont un fusible, c'est le président. Le président qui est, en quelque sorte, Premier ministre, hein, si je veux faire des équivalences pour aller vite, et l'ayatollah... dont j'arrive pas à prononcer le nom, mais qui est le guide suprême.
Je vais vous aider, Hassan Rouhani.
Voilà, qui est le guide suprême. Et il y a là un double pouvoir.
Le guide suprême, c'est Ali Khamenei. Là, le président, c'est Hassan Rouhani.
Voilà. Et ils n'ont pas le même discours. Hein. L'un, qui a parlé récemment, qui s'était tu jusqu'à présent, a brandi effectivement le diable américain. Ça marche pas. Enfin, il y a eu une vaste contre-manifestation. C'est-à-dire favorable au régime, mais en même temps le chef du gouvernement lui-même il dit pas que c'est uniquement la faute aux étrangers, aux Américains. Il reconnaît qu'il y a des difficultés économiques. Alors il a un peu durci son discours parce qu'il a compris que le guide suprême allait le gronder, mais jusque-là il défendait pas les manifestants, mais il avait une tendance à comprendre pourquoi les gens étaient en colère.
Alors, on avance. Deuxième grande actualité internationale qu'on a retenue, c'est la Pologne. Puisque en Pologne a cours, maintenant depuis quelques mois, une réforme de la justice, contre laquelle l'Union européenne est assez vindicative, et donc serait sur le point d'être déclenchée, ce qui en tout cas est présenté dans la presse comme l'arme nucléaire, c'est-à-dire déclenchement de l'article 7 des traités visant à corriger des violations graves et systématiques à l'état de droit dans le cadre d'un des États membres. Procédure, semble-t-il, qui ne devrait pas aller très loin puisqu'il faut que ça soit voté à l'unanimité et que, entre autres, la Hongrie s'y opposerait. En cause donc une réforme de la justice. Alors je vais peut-être vous donner la parole et puis je travaillerai à l'expliciter. Toujours est-il qu'elle est présentée, on va dire, par ceux qui y sont favorables comme une manière de mettre au pas ou de nettoyer une justice corrompue et par trop avec des cadres, d'anciens cadres du Parti communiste, et par ceux qui y sont opposés comme une confusion et un manque de séparation des pouvoirs puisque l'exécutif aurait une main plus importante sur la nomination, entre autres, des juges de la Cour suprême. Daniel Cabanis.
Les deux positions, je crois, correspondent à une certaine forme de réalité. Effectivement, dans tous les pays anciennement sous tutelle communiste et soviétique, lorsque les révolutions de velours et autres ont éclaté, on n'a pas du tout nettoyé ni l'administration, ni l'enseignement supérieur, ni la justice, tous ceux qui y étaient, moyennant qu'il n'ait pas du sang sur les mains. Et encore. On les a laissés en place et dans certains cas, c'était des gens qui n'étaient déjà pas efficaces il y a 25 ans. Je vous laisse imaginer ce qu'ils sont maintenant. Donc là, il y a un argument qui est techniquement un argument raisonnable, si l'on peut. Mais en revanche, ceux qui disent que c'est une façon de mettre la main sur la justice ont aussi, et là c'est, je pense, bien plus dramatique, ont aussi raison, parce que la façon dont la réforme des institutions judiciaires est prévu, enfin déjà largement adopté, aboutit à ce qu'il n'y ait pratiquement plus de séparation des pouvoirs, puisque c'est l'exécutif qui a la haute main sur la nomination des magistrats, sur leur carrière. Donc l'indépendance des juges, qui est une valeur, j'irais presque sacrée, entre guillemets, dans toute démocratie qui se veut respectueuse des droits de l'homme, là c'est vraiment transgressé. Et puis c'est sans doute aggravé le rejet de cette réforme par le fait qu'à l'instar de ce qui se passe dans la Hongrie de Viktor Orban, qui d'ailleurs a déclaré que de toute manière rien ne passerait parce qu'il mettrait son veto, il y a une dérive extrême droitière, populiste, xénophobe, qui inquiète beaucoup. et d'autant plus que l'histoire est marquée par un certain nombre d'épisodes qui sont déjà allés dans ce sens-là. Donc on peut craindre des véritables dérives de comportement.
Alors, si je dois essayer de résumer cette réforme de la justice, donc il y a trois volets. L'un qui comprend la réforme de la Cour suprême et qui prévoit que soient mis à la retraite ou remplacés certains juges par une commission judiciaire désignée par le Parlement, manière de couper court peut-être à d'autres habitudes. La seconde loi dispose que les membres du Conseil national de la magistrature seront désormais également choisis par le Parlement. Voilà, autre manière probablement de court-circuiter d'anciennes pratiques. Et le troisième volet qui, lui, a été déjà acté par le président de la République, qui avait mis son veto, Andrzej Duda, sur les deux précédentes, qui donne au ministre de la Justice le droit de nommer et de démettre de leurs fonctions les magistrats à la tête des tribunaux de droit commun. Bernard Ibal.
Oui, c'est effectivement enraciné un peu dans l'histoire polonaise. C'est un peu trouble, cette affaire. Il y a d'abord ce qui saute aux yeux. Ce qui saute aux yeux, c'est que le président du Conseil européen, qui s'appelle Donald Tusk, je sais plus le prononcer, Tusk.
Tusk.
Tusk, ouais, je sais pas, il faut le prononcer à l'anglaise parce qu'il est pas anglais, est polonais. Et non seulement il est polonais, le président du Conseil européen, mais il a été chef du gouvernement. Il est chef de parti en Pologne, chef d'un parti centriste, qui est un parti gouvernemental, qui pour l'instant est dans l'opposition. Et les Polonais, actuellement en place, au pouvoir, crient à la trahison. C'est-à-dire que ce président, Donald Tusk, utiliserait ses fonctions importantes à la tête de l'Europe pour utiliser l'article 7 dont parlait Daniel à l'instant. Tout ça, c'est peut-être un peu d'écume. Ce qui est plus profond, c'est que effectivement, il y a en Pologne, depuis longtemps et même récemment encore, une sédimentation d'extrême droite. L'Église a eu parfois du mal à calmer, d'ailleurs. On se souvient du fameux épisode franco-polonais de Monseigneur Lustiger, qui est allé en Pologne, essayer, en tant que cardinal français, donc sans autorité du tout, essayer de faire en sorte que les choses s'arrangent autour d'Auschwitz.
Vous pouvez réexpliquer juste rapidement cette affaire?
Bah oui, on voulait. C'est un certain ordre religieux catholique voulait construire un monastère juste en face, le camp d'Auschwitz, mais alors vraiment juste en face, quoi, hein, avec une immense croix. Et évidemment, il y a eu protestation des juifs de Pologne. Il y a eu confrontation forte et utilisation politique par l'extrême droite, qui soutenait évidemment le couvent qui. N'était pas obligatoirement d'extrême droite, lui, le couvent. Hein. Il est entré dans une instrumentalisation. Et on voit bien qu'il y avait une base xénophobe, une base antisémite. Et on la retrouve un peu avec cet ordre moral, cette défiance de la démocratie, cette chasse aux sorcières des anciens communistes. Alors, il y a des vrais anciens communistes qu'il aurait fallu chasser plus tôt, mais il y a peut-être aussi une chasse aux sorcières de communistes qui n'ont jamais été, quoi. Hein, voilà un petit peu je suis, moi, très ennuyé, inquiet, de la présence de l'extrême droite dans le monde entier, hein, mais il faut bien reconnaître qu'à l'est de l'Europe, c'est quand même marqué la Hongrie, la Pologne, maintenant l'Autriche. Hein, qui a des ministres régaliens ex-nazis. Il y a peut-être là une réelle inquiétude.
Voilà, je dirais juste avant qu'on fasse une première pause que dans ce pays, donc majorité et opposition du coup sont de plus en plus à cran. Dans un article du Monde, il était noté dans ce pays différents camps adverses politiques se traitent de malades, de traîtres et autres. Bref, une situation d'extrême tension politique. On va faire une première pause musicale et on vous retrouve tout de suite après. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, ce matin, donc le grand débat de Vivante Église, émission d'actualité mensuelle, avec pour rappel, si par hasard vous nous prenez autour du plateau, Daniel Cabanis, donc entre autres chroniqueuse géopolitique sur cette même antenne, et Bernard Ribal, président, entre autres, des Semaines Sociales de Toulouse. Je voulais qu'on aborde un autre sujet, enfin international d'une certaine manière, c'est donc le succès d'Emmanuel Macron, qui dans les sondages se porte bien, semble-t-il c'est une nouveauté à autant de mois de l'échéance présidentielle, et entre autres qui plaît à l'étranger. Le magazine The Economist, donc journal libéral anglais, a élu la France pays de l'année 2017, se réjouissant que ce jeune quadra ait balayé l'ancien régime français et mènerait les réformes nécessaires tambour battant. Est-ce que, en dehors de ce prix de The Economist, vous avez d'autres échos? Et si oui, lesquels ou qu'est-ce qui vous inspire de ce succès d'Emmanuel Macron? Bernard Ribal.
Je crois qu'effectivement, il a acquis un certain leadership sur le plan international. D'abord en revêtant, mais presque comme tous les présidents de la République française, les habits du gaullisme. Et le gaullisme en politique étrangère a toujours fait la quasi-unanimité des tendances.
Qu'est-ce que vous appelez le gaullisme
à savoir l'indépendance diplomatique et militaire de la France et une certaine défiance à l'égard des positions américaines, tout en étant quand même alliés de... occidental. Il y a aussi la chance qu'il a, la chance entre guillemets, parce que c'est pas une chance pour le monde, la chance qu'il a que dans les autres pays occidentaux, il y a une déstabilisation forte, quoi. La Grande-Bretagne, on sait pourquoi, le Brexit et toutes les disputes qu'il y a autour de ça. En Allemagne, Angela Merkel n'arrive pas à former un gouvernement, ça fait des mois. Aux États-Unis, Trump est loin de faire l'unanimité. Donc il y a une sorte de déstabilisation des pouvoirs politiques. Il n'y a que la France qui, parmi les grands pays occidentaux, a un pouvoir qui paraît stable. Alors, il se trouve être leader de la relance européenne. Il se trouve leader de l'écologie.
Même si pour l'instant, pour la relance européenne, il n'est pas tout à fait écouté.
Il n'est pas tout à fait écouté, mais...
Il lance l'impôt. Enfin,
L'Allemagne lui reconnaît quasiment ce rôle. Angela Merkel a toujours été très européenne, mais elle n'avait pas tellement trouvé dans les présidents français un écho efficace. Ils étaient peut-être européens aussi, mais pas un écho efficace. Là, elle trouve un écho efficace et elle laisse Emmanuel Macron prendre un peu le leadership, d'autant qu'elle, elle n'est pas en mesure de le prendre compte tenu de ses ennuis de politique intérieure. Et il y a aussi le leadership écologique avec... Alors, il n'a presque pas fait exprès, quoi, hein, parce qu'il n'a jamais été très très écolo, ni même dans sa campagne. Et là, il se trouve champion du monde de l'écologie face particulièrement aux Américains. Il est leader de la raison aussi.
Tout le monde n'est pas de cet avis non plus, on verra. Enfin, on le verra à un moment des états généraux de l'alimentation. Il essaye de prendre le leadership sur ce sujet.
Il n'a pas l'unanimité, il a l'unanimité nulle part. Si on parle de remontée de la prise en considération de la France dans le monde, il y a disons une tendance lourde qui va dans le sens, mais c'est pas l'unanimité. Je parlerai volontiers, mais je sens développer, qu'il est le leader de la raison aux yeux du monde par rapport à Trump et Poutine, qui font pas figure de leader de la raison. Ils sont toujours leaders parce qu'ils sont de grande puissance, mais ils font pas figure de leader de la raison. On le voit au Moyen-Orient, par exemple. Il est peut-être aussi quelque part le leader de l'antiterrorisme avec... on est quasiment seul au Sahel. Partout ailleurs, c'est des coalitions. Alors, il y a bien une coalition contre le Sahel, mais c'est des coalitions africaines autochtones. On ne peut pas dire que nos amis, nos alliés soient précipités pour nous aider. Et on se trouve un peu seul. Alors l'inconvénient quand même, hein, l'ombre, c'est qu'il a de faibles moyens. Il a de faibles moyens militaires par rapport aux États-Unis ou à d'autres, très faibles moyens militaires. Et il est absent totalement de l'Extrême-Orient, ce qui est quand même pas... c'est quand même embêtant, quoi. Quand on prétend avoir un leadership mondial, l'absence totale en Extrême-Orient est un peu embêtante. Voilà.
Daniel Cabanis.
Alors, sans aller directement contre ce que vient d'affirmer Bernard, je ne crois pas qu'il soit totalement absent de l'Extrême-Orient. Je crois que c'est un homme qui sérit et qui ne va sur le terrain que quand il maîtrise ou pense maîtriser bien. Or, l'Extrême-Orient, du point de vue diplomatique, c'est une poudrière, surtout qu'on n'arrive pas à sortir à ce conflit sur la mer de Chine du Sud qui empoisonne les relations sino-américaines, vietnamo-américaines, avec la Corée, avec le Cambodge, bref, tous les États de la zone sont concernés. Donc les extérieurs à la zone font très très attention de ne pas mettre les doigts là-dedans, parce qu'on s'aperçoit, alors plus au nord en Corée, les difficultés qu'a le président américain de gérer rationnellement les problèmes bien réels que soulève la Corée du Nord. Donc je crois que c'est largement volontaire qu'il est un petit peu sur le reculoir. C'est un homme qui n'avance que lorsqu'il maîtrise. Il a une formation à la rigueur, et on sent parfois dans ses discours, on retrouve les propos de Paul Ricoeur. Hein, il a vraiment été marqué par cela, cette rigueur de construction et oui, je crois qu'on peut le dire, une certaine honnêteté morale qui est à mettre à son crédit. Bon, il faudra voir sur la durée, parce qu'il n'en est qu'au début. Mais de ce point de vue-là, on a l'impression d'un petit peu moins de machiavélisme que ce qu'on a eu par le passé.
Je voulais simplement dire qu'on avait peu de moyens économiques en Extrême-Orient, même s'ils voulaient faire quelque chose. Ouais. On n'a pas d'énormes moyens économiques là-bas, et encore moins de bases militaires. La mer de Chine dont vous parliez à juste titre est pleine de navires de guerre avec des étendards de tous les pays du coin, mais il n'y a pas beaucoup de bateaux français, quoi.
Hein, tout à fait.
Alors,
il peut rien.
Je propose qu'on avance et qu'on aborde un autre sujet qui concerne la France, qui donc est cette fois le sujet des migrants, puisque se prépare donc annoncer pour ce début d'année une loi sur le droit d'asile, pardon, et l'immigration. Emmanuel Macron a fait une déclaration à l'occasion d'un discours à Orléans le 28 juillet, disant qu'il ne voulait plus d'ici la fin de l'année d'hommes et de femmes dans la rue ou dans les bois, en parlant en partie des migrants, des demandeurs d'asile. Voilà, loi qui s'annonce pour les associations un tour de vis sécuritaire, à tel point qu'elles sont montées au créneau et que le Premier ministre, Édouard Philippe, a demandé que soit entamé un round de consultation avec les associations pour aboutir à une position plus consensuelle. Pour essayer de résumer rapidement ce qui est prévu ou ce qui a été annoncé, c'est donc un raccourcissement du délai d'examen des demandes d'asile, un nombre de places d'accueil des demandeurs d'asile qui soient étendus, et puis un renforcement des contrôles à la frontière et plus de reconduites à la frontière. Voilà, je le résume très grossièrement, mais j'ajouterai des choses au fur et à mesure. J'ai lu que là, ça pouvait être la première, peut-être, après la loi sur la réforme du code du travail, première loi qui allait peut-être lui entamer sa cote de popularité. Daniel Cabanis.
Alors, bien évidemment, il y a tout un discours qui fait partie du politiquement correct d'un côté et d'une générosité réelle de l'autre qui souhaite un élargissement des conditions d'accueil des migrants et autres réfugiés, d'autant plus que notre pays n'a de très loin pas la palme, hein, en matière d'accueil du point de vue quantitatif, même si on déplore des conditions d'accueil qui sont médiocres. Mais peut-être que même si c'est choquant pour les associations, choquant pour tous ceux qui s'investissent d'une manière ou d'une autre en faveur de migrants, peut-être que ce travail législatif, qui est encore balbutiant, hein, qui va faire l'objet de concertations, et on peut espérer déboucher sur quelque chose qui soit possible pour une large majorité, pourrait avoir un avantage, c'est que ça éviterait des affrontements périphériques. Parce qu'il faut bien voir que beaucoup de ceux qui défendent les migrants n'en ont jamais mis un dans leur chambre d'amis, sont à solide distance de tout ce qui représente les migrants. Péniblement, on leur sort trois sous.
Parmi ceux qui sont engagés dans le monde associatif.
Oui, pas tous, mais je n'ai pas dit tous, mais un bon nombre de ceux qui crient très fort, parce que les gens des associations ne crient pas très fort. Ils protestent avec des arguments qui, dans une large mesure, sont respectables. Donc, ça permettrait de faire le tri, parce que dans les associations, je ne crois pas qu'on soit hostile foncièrement à ce qu'on cherche à identifier un peu plus clairement qui vient et pourquoi, et qu'on prenne des décisions qui permettent de protéger mieux ceux qui ont vraiment besoin de protection, et que éventuellement on soit un peu moins souple à l'égard de gens qui n'ont d'autres ambitions qu'économiques. Il suffit d'avoir travaillé un tout petit peu dans cet environnement qui concerne l'insertion de migrants, y compris des gens qui sont arrivés légalement mais qui ne veulent plus repartir, pour savoir que c'est absolument diabolique. Donc, il ne suffit pas de dire « Yarka », c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Voilà, en tout cas, en 2000... Enfin, j'ai dit « voilà », mais ce n'est pas du tout pour clore le débat. J'ajoute juste, en 2016, il y a eu 91 000 étrangers en situation irrégulière interpellés. 31 000 se sont vus délivrer donc un OQTF, ça veut dire en gros reconduite à la frontière, et 25 000 exécutés. Il y a autre chose, en fait, qui est dans la balance, c'est les fameux centres de rétention administrative. Ici, à Toulouse, c'est comme ça que sont nés les fameux cercles du silence qui réunissent sur la place du Capitole et ailleurs des gens donc en public, en silence, en signe de protestation contre ces centres de rétention administrative qui sont grosso modo la case avant, normalement, la reconduite dans le pays d'origine. Et là, leur nombre devrait augmenter. Certaines associations disent ou se scandalisent que la moitié des demandeurs d'asile puissent se retrouver dans ces centres de rétention. Bernard Ibal.
Oui, je crois que l'essentiel, à mes yeux, de la future loi sur l'immigration va porter sur ces centres de rétention. Je crois que le président a clairement annoncé que il faudrait de meilleures conditions de vie dans ces centres de rétention et une durée beaucoup moins longue de présence dans ces centres.
Enfin, il n'est pas le premier à l'avoir dit, et ça, c'est pas pour autant fait, donc...
Oui, mais ça, tant qu'il n'est pas passé à l'acte, on ne peut pas non plus lui reprocher de pas... début, là.
Oui, je veux dire, les associations lui reprochent de ne pas forcément mettre les moyens conséquents à ses annonces.
Oui, mais c'est que le problème était peut-être un peu différent maintenant. Parce que ce qui se pose dans les centres de rétention, aujourd'hui, c'est le tri quasi impossible entre les migrants économiques qui viennent en Europe pour essayer de manger un peu, en sortant de leur pays sous-développé. Et puis, il y a les migrants réfugiés politiques avec droit d'asile.
Et pourquoi le tri, comme vous dites, des triples guillemets, est plus difficile aujourd'hui ?
Le tri est très difficile, parce que le fait qu'il soit des milliers, des dizaines de milliers, même si en France c'est beaucoup moins nombreux qu'en Allemagne par exemple, hein, mais le fait qu'il soit très nombreux fait qu'il est très difficile à des fonctionnaires français de savoir si oui ou non Monsieur X ou Madame Y a un statut légitime de réfugié. Parce qu'il faudrait faire l'enquête en Syrie, il faudrait faire l'enquête en Irak, c'est pas en France qu'il faut la faire l'enquête pour savoir s'ils sont réfugiés légitimes. Et donc, il y a là une difficulté, voire une impossibilité. Hein. Une difficulté, voire une impossibilité. Et c'est pourtant ce à quoi veut s'attaquer le gouvernement et le président de la République. Je crois qu'effectivement, c'est un problème, mais je ne sais pas comment on peut résoudre ça, surtout qu'il y a un autre tri. Et là, il y a, sans guillemets, c'est le tri entre les vrais réfugiés et ceux qui se cachent parmi eux, et qui sont d'authentiques terroristes, quoi. On en a arrêté plusieurs, hein, qui avaient le statut de réfugiés. Les terroristes j'allais dire en herbe, mais hélas, ils ne sont pas tous en herbe. Donc, il y a là un vrai problème. Mais il y a aussi, en même temps, un triple scandale qui n'est peut-être pas là où on le dit le plus souvent. Moi, le premier scandale que j'observe, et que j'observe parce que j'y suis dedans, c'est le scandale de l'accueil des jeunes étrangers seuls, qui ne sont pas accompagnés de leur famille.
Étrangers mineurs isolés, c'est comme
voilà,
ça qu'on dit, je crois.
Voilà. L'ANRAS, l'association dont je suis vice-président, est une, heureusement qu'on n'est pas tout seul, hein, une des associations qui s'occupe de ces gens-là, avec l'aide de l'État d'ailleurs, hein, mais, qui s'occupe de ces jeunes. Et là, il y a un véritable scandale, parce qu'on ne peut pas les assimiler ni à des réfugiés, ni à des immigrés économiques. Qu'ils soient réfugiés ou non, quelle que soit la raison de leur présence en France, eux qui ont traversé la Méditerranée dans des conditions atroces, du fait que ce sont des mineurs, des enfants, on ne peut pas avoir les considérations politiques là, pour savoir s'ils sont réfugiés politiques ou migrants économiques. Là, il y a un scandale. Puis il y a le scandale aussi de ceux qui, occasionnellement, pas du tout planifiés, ont pu aider ici ou là personnes migrantes en France et qui se trouvent poursuivies par la justice. Mmh. Là, c'est pas acceptable, là. D'un point de vue chrétien comme d'un point de vue moral, humaniste, général, mais particulièrement d'un point de vue chrétien, il est absolument aberrant qu'on puisse poursuivre en justice. Alors, je ne parle pas de ceux qui manipulent les immigrés, qui utilisent les clandestins. Je parle de celui qui, voilà, il prend au bord de la route, on a vu ce cas-là, hein, il prend au bord de la route deux personnes, il les amène à un endroit, il se trouve que ce sont des personnes sans papier, ils sont poursuivis par la justice. C'est plus possible. Et puis, il y a le scandale de la Libye, quoi. Le pays qui s'appelle la Libye, parce qu'à Libye, on dirait que je donne des alibis. La Libye, ça va jusqu'à l'esclavage, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on a réussi à empêcher 90% de ceux qui voulaient traverser la Méditerranée de la traverser. Seulement maintenant, ils sont en Libye, ceux-là, justement parce qu'ils ne veulent pas traverser. Et ils vivent dans des conditions atroces, de violence, et voire même d'esclavage. Ça fait trois scandales là qui font partie de la politique de l'immigration. On ne peut pas les traiter comme périphériques, comme annexes, comme subsidiaires. C'est trois cas très différents de scandales, mais un chrétien ne peut pas rester insensible à ces trois dimensions.
Daniel Cavani, je sais que vous ne devez pas tarder à partir. Je vous avais demandé de choisir un sujet à la fin de cette émission, sorti de votre chapeau, dont vous vouliez, sur lequel vous vouliez apporter quelques commentaires. Exit donc, a priori, les états généraux de l'alimentation. Dites-nous quel est le sujet que vous aviez choisi.
Ben, le sujet qui m'intéresse, c'est les assises de bioéthique, parce que là, on est au cœur de débats qui sont des débats extrêmement difficiles, qui sont... passionnant, avec des avis très, très tranchés. Et il faudrait arriver à ce que, indépendamment même de tout engagement chrétien, qui par définition ne concerne pas tout le monde, le respect de la dignité de la personne soit au cœur de tous ces débats. Et puis qu'on essaye de ne pas jeter des anathèmes trop brutaux contre ceux qui ne sont pas nécessairement du même avis. Parce que, comme l'a dit le pape François, j'ai des principes, mais qui suis-je pour juger ? Et je crois que là, il y a vraiment un enjeu qui est important, et j'espère que les débats de ces assemblées seront utiles, parce qu'ils pourront aller au fond des choses et ne seront pas masqués par des escarmouches stupides, en fait.
Voilà, donc révision des lois de bioéthique, c'est le sujet que j'avais choisi, sur lequel je vous lançais, qui sont prévus pour l'automne prochain. Le journal La Croix, dans son édition du 3 janvier, a sorti un sondage en partenariat avec l'IFOP, indiquant que près de 70% des Français sont favorables à la légalisation de la gestation pour autrui, 60% pour la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes seules, et à plus de 80% pour la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Je ne sais pas exactement quelle différence il faut faire. Vous devez y aller, voilà, c'est pas grave, ça arrive. Bernard Ribal, un commentaire sur ces révisions. Je vais peut-être ajouter un élément. Dans ce même journal La Croix, Monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, faisait ce commentaire. Ce sondage confirme que domine dans notre pays une civilisation des droits individuels. L'homme est d'abord sujet de droit, alors que dans une anthropologie chrétienne, il est d'abord un être de relation qui se construit et agit avec d'autres. Il y a là un hiatus qui n'est pas nouveau, mais qui apparaît clairement.
On a assisté à un glissement depuis plusieurs décennies de la souveraineté de l'État à la souveraineté de l'individu. Avant, il n'y a pas si longtemps que ça, l'adultère était poursuivi par la justice. Il fallait un constat de commissaire de police. On a des films comiques là-dessus qui datent de l'époque. Et c'est pas une époque très reculée. Hein. Puis, l'adultère est entré dans l'ordre de la morale individuelle et plus du tout de la loi publique. Et plein de mariages pour tous après, puis plein d'autres choses que j'oublie. Ce n'est plus l'État et la loi qui sont souveraines, c'est l'individu qui a gagné en souveraineté. Et cette souveraineté, elle n'a aucune base, elle n'a aucun repère, elle part dans tous les sens, quoi. C'est cette liberté qu'on critique chez les enfants, les petits-enfants. On leur dit non, la liberté, c'est pas faire ce qui me plaît, c'est pas toujours faire ce qui me plaît. Et là, les adultes sont devenus des enfants. Il s'agit de faire ce qui me plaît, alors que il y a sans doute des lois invisibles, des lois naturelles, des lois spirituelles qui ne vont pas dans le sens de ce matérialisme qui est en train de nous envahir.
Monseigneur Bonin qui fait cet autre commentaire à propos des résultats, parce que dans ces résultats, les catholiques pratiquants se montrent pour une bonne partie favorables à ces dites évolutions de société. Les résultats du sondage signifient à quel point les catholiques sont immergés dans la culture commune, mais aussi que leur sensibilité à la souffrance les fait adhérer à des propositions qui paraissent répondre à la souffrance de l'autre, laissant entendre qu'évidemment, c'est pas pour les chrétiens une solution.
Il y a un piège grave, ce qui est le piège sémantique, c'est le mot « dignité ». Il y a une acception double de la dignité.
Vous en aviez déjà parlé la fois dernière.
Ah ben alors j'en reparle pas, je m'en souviens
pas. Parce que tout le monde n'écoute pas à chaque fois.
Il y a la dignité au sens de amour propre, au sens de fierté. On a sa dignité. Et dans ce cas, effectivement, si je décline en vieillissant, par exemple, pourquoi pas aller au suicide? Parce que mon amour propre, ma fierté, en prend un coup. Ma pseudo-dignité, fierté, en prend un coup.
Vous en aviez parlé au sujet de Dan Bert.
Ah, peut-être,
voilà,
bien,
cet
oui.
Écrivain qui s'est euthanasier.
Et puis, oui, c'est le même sujet, finalement. Hein, oui. C'est le même sujet. Et la dignité, qui est de considérer que la valeur d'une personne est indépendante de tout, n'est relative à rien. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dépendante de sa santé, de son âge, de sa... Je disais sans doute, parce que c'est l'exemple que je prends souvent, qu'un trisomique a autant de dignité qu'Einstein, qu'un vieillard grabataire a autant de dignité qu'un jeune athlète. Ça, c'est la vision chrétienne, mais pourquoi pas d'autres personnes aussi, hein. C'est la vision chrétienne qui est très loin de la vision dignité, amour, propre, fierté, quoi.
Voilà, j'ajouterai un dernier commentaire. C'est Jean Leonetti, toujours dans ce journal La Croix, qui était l'ancien rapporteur des révisions des lois de bioéthique de 2011, qui n'est pas connu pour être un extrémiste, loin s'en faut,
oui.
Qui dit la chose suivante. Ce qui est à craindre, selon moi, c'est l'avènement d'une société faisant primer la loi du plus fort. En matière de bioéthique, nous nous trouvons face à un conflit de valeurs entre, d'un côté, l'éthique d'autonomie fondée sur la liberté de décider pour soi-même, et d'autre, l'éthique de la vulnérabilité qui veille à protéger le plus fragile, y compris parfois contre eux-mêmes. Le sujet que vous aviez choisi pour
on n'a sans doute pas le temps. Moi, ce que j'avais choisi, c'était
3-4 minutes.
Le sujet que j'avais choisi, c'est celui qui évoque un petit peu le monde et les échos, mais qui est surtout évoqué en concertation syndicale avec le gouvernement en ce moment même, décembre 2017, janvier 2018. C'est la réforme de l'article 1833 du Code civil.
C'est-à-dire
cet article définit les finalités de l'entreprise.
Ah oui, très oui.
Et cette finalité, dans l'article 1833 ou 1833, ça dépend comment on prononce, dit clairement que c'est le profit, la finalité de l'entreprise. Et on est un certain nombre de syndicats, un certain nombre de politiciens, un certain nombre d'intellectuels, etc. On est un certain nombre, de plus en plus nombreux, à vouloir introduire la notion de bien commun. Non pas en rayant le profit, mais en ajoutant au profit une autre finalité, la finalité du bien commun. Et là, pour l'instant, on rencontre l'opposition, le veto complet, hein, qui ne veut même pas en parler du MEDEF, mais l'histoire nous a montré qu'on pouvait évoluer.
Mais le gouvernement pousse en ce sens, en tout cas.
Le gouvernement a plutôt tendance à pousser en ce sens. Bien qu'on n'ait pas de vision bien claire, hein, y a des déclarations un peu floues. Hein, c'est toujours des personnes dites autorisées, hein, dans les milieux autorisés qui s'expriment, mais c'est jamais finalement des déclarations bien officielles. Mais effectivement, moi j'ai l'impression que le gouvernement pousse dans ce sens, oui.
Alors quand vous dites qu'est ajoutée la notion de bien commun, quelle forme ça pourrait prendre et quelle incidence ça peut avoir ?
J'ai un exemple très simple à ce sujet, c'est la stratégie des entreprises. Aujourd'hui, la stratégie des entreprises, elles sont presque toujours à court terme, parce que les propriétaires, qu'ils soient actionnaires ou propriétaires de leur entreprise, les propriétaires demandent un profit rapide, sûr, et qui oblige l'entreprise à avoir des politiques court-termistes, à rentabilité immédiate. Or, l'économie réelle, l'entreprise réelle, a besoin de projets à long terme. Et si on introduit le bien commun dans l'article 1833, le long terme, l'exigence d'envisager le long terme, qui s'exprime à travers les cadres, souvent. Aujourd'hui, ceux qui défendent l'entreprise le plus, ce sont les cadres. Les actionnaires, quand l'entreprise va mal, ils s'évaporent, hein, la volatilité des capitaux. Mais les cadres, et peut-être les salariés dans leur ensemble, mais en tout cas les cadres représentent cette vision à moyen et long terme. Et c'est peut-être ça l'un des aspects du bien commun. Un exemple concret. Parce que c'est vrai que si on en reste à bien commun, sans rien y mettre derrière, c'est une abstraction dont on ne sait plus quoi faire. Quoi, hein, ce n'est pas une abstraction, je cite l'exemple du long terme. Il y a aussi un autre exemple social, celui-là. Là, je cite un exemple économique, mais un exemple social, c'est la GPEC, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, qui est souvent oubliée aujourd'hui, ou qui n'a même jamais été mise en marche dans certaines entreprises. Et ça, c'est le bien commun. Il y a aussi la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, qui permet aux entreprises de s'intéresser à autre chose qu'à l'entreprise elle-même circonscrite à ses locaux et à ses activités, mais qui l'oblige, au moins moralement, à s'intéresser à l'environnement, aux collectivités territoriales dans lesquelles elle se trouve, à la parité homme-femme, enfin, etc. Voilà comment le bien commun peut concrètement s'insérer dans l'actualité, quoi.
On y reviendra sur ce sujet qui, de fait, moi je l'avais lu dans le journal, entre autres dans le journal La Croix, qui est passionnant et fondamental pour la vie de, entre autres, pour la vie de la société française. Merci beaucoup.
Merci.
Bernard Ibal d'être venu au micro de Vivante Église, et Daniel Cabanis se fait à nouveau excuser. C'est exceptionnellement, elle devait partir un peu plus tôt. Et merci à Maïlène Guillaume qui m'a aidé à préparer cette émission qui était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.